les missions de notre association, c'est de sensibiliser justement le grand public aux troubles 10 et au TDAH, 10 comme dyslexie, dysorthographie ou dyspraxie, tout simplement parce que c'est difficile dans la petite enfance de diagnostiquer ces troubles. On se pose beaucoup de questions, il y a une errance diagnostique encore en France aujourd'hui où les parents peuvent perdre beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'ont leurs enfants. Et puis, certains parents à l'âge adulte relisent leur parcours au regard du diagnostic de leur enfant et comprennent qu'eux-mêmes souffrent de troubles 10. Et c'est pas toujours évident, c'est même encore plus difficile aujourd'hui d'aller chercher un diagnostic quand on est adulte avec un trouble 10.
J'imagine que samedi, vous allez présenter les différents troubles, peut-être les différents signes à identifier.
Oui, les troubles 10 et le TDAH, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. C'est pas, on le fait pas exprès, on n'est pas mal élevé. On a des signes d'appel, on appelle ça les signes d'appel, quand on peut avoir des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. Ce sont les parents, ce sont les enseignants souvent qui les repèrent. Et on va effectivement donner quelques clés pour aider les parents à se poser des questions et à se dire s'il faut se tourner à ce moment-là vers un professionnel et aider aussi à savoir vers quel professionnel, quelle est la démarche diagnostique qu'on doit suivre quand on se pose des questions sur un éventuel trouble 10 ou un TDAH pour son enfant ou pour soi-même.
Vous parlez aussi de TDAH, on peut préciser ce que c'est ?
Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Avec ou sans, donc effectivement, ça peut être aussi un souci de diagnostic. Hein.
Oui, le trouble de l'attention est celui qui passe le plus souvent inaperçu. On va parler d'un enfant, d'un jeune qui est dans la lune, qui est dans ses pensées. Parfois, c'est vraiment quelqu'un qui est juste dans la lune. Et puis parfois, c'est un trouble de l'attention qui peut être très invalidant, très pénalisant sur le plan scolaire et sur le plan social.
Et pour vous, d'après votre expérience, puis je sais que vous êtes aussi investi dans le milieu scolaire, à partir de quand on doit se poser une question sur peut-être un trouble chez notre enfant ?
À partir du moment où on constate un décalage avec ce qu'un enfant du même âge devrait pouvoir accomplir. Par exemple, si vous voyez que votre enfant de 7, 8, 9 ans a des difficultés pour couper sa viande, pour se boutonner, pour s'habiller, pour la motricité globale, ou des difficultés en calcul, ou des difficultés dans la lecture, l'apprentissage de la lecture est plus long que ce qui devrait être, des difficultés de compréhension. À partir du moment où on constate un décalage avec ce que les enfants du même âge font, là, il faut se poser la question et aller se tourner vers des professionnels. Et une association, puisque l'association, elle est là aussi pour vous renseigner sur les signes d'appel.
Vous savez de quoi vous parlez, vous êtes maman, ça a été un parcours du combattant, hein, je vous ai reçu en émission. Ça l'est toujours, ce parcours du combattant ?
Moi, aujourd'hui, parce que mon fils est beaucoup plus grand, que les diagnostics sont posés, que les suivis sont réguliers et que, pour le coup, il a bien progressé. L'important, c'est justement de pouvoir repérer les signes le plus tôt possible hein, pour mettre en place des rééducations efficaces. Plus on commence tôt, plus on peut accompagner l'enfant dans des rééducations comme l'orthophonie, la psychomotricité, dès le repérage des premiers signes et des premiers diagnostics.
Vous allez expliquer tout cela ce samedi. Vous allez aussi profiter de la venue de pas mal de monde pour, à la Coursaudière, organiser votre assemblée générale. On rappelle, mission donc d'information, de soutien aussi des familles.
Oui, c'est la force du collectif. L'idée, c'est de se retrouver entre parents, entre adultes aussi, 10 ou TDAH, d'échanger, de s'entraider, de se soutenir. Et puis aussi de monter en compétences parce qu'on s'échange notre manière de faire. Ceux qui ont des enfants plus âgés peuvent soutenir les parents d'enfants plus jeunes, aussi les rassurer. On organise régulièrement des rencontres, soit en visio parce qu'on a des adhérents qui sont un petit peu partout dans le département, soit aussi en présence, comme au mois de janvier où on a fait une rencontre sportive ou au mois de mai où on va organiser un pique-nique pour toutes les familles. C'est l'idée de se rassembler voilà, pour faire unité, pour avoir de l'espoir aussi sur le fait que nos enfants sont intelligents et peuvent s'en sortir dans la vie.